À 15h50, on va joindre Joanne Blais à Québec pour parler, entre autres, des urgences qui débordent encore cette année. Joanne, bonjour.
Bonjour Marie-Claude, je suis tellement contente de vous retrouver.
Ben, on est très, très content de te retrouver aussi. Puis les auditeurs t'apprécient énormément, Joanne. Tu as toujours des sages conseils. Et ce qui est formidable avec toi, c'est que tu suis l'actualité beaucoup. Alors, tu es toujours en mesure de réagir, même à la dernière minute, sur des sujets qui touchent les gens dans le domaine de la santé. Et on t'apprécie beaucoup.
Ben, merci.
Alors, les urgences, ça revient chaque année. Mais écoute, on n'y échappe pas. Encore ce matin, dans les journaux, encore ce week-end, on parle des urgences, mais qui débordent. Mais on parle de 190% d'occupation. Ça marche pas, là.
Ben, effectivement, écoute, entre autres, Sainte-Justine a même vraiment mentionné d'arrêter d'y aller parce qu'en fin de semaine, c'était vraiment, comme tu le mentionnais, un taux d'occupation de 190. Il faut dire que dans la majorité des hôpitaux au Québec, le taux d'occupation des civières dépasse largement la capacité d'accueil maximale qu'on est capable de prendre dans chacun de nos hôpitaux. Mm-hmm. Et les raisons, il y en a de toutes sortes. Hein. Que ce soit pour un rhume, pour la grippe, pour une gastro-entérite, c'est sûr qu'il y a des accidents, il y a des chutes aussi. Il peut y avoir de très bonnes raisons de se présenter à l'urgence, mais j'avais envie de vous donner 5 petits trucs avant d'arriver à l'urgence.
D'accord.
Le premier, c'est évidemment d'appeler Info Santé 811, parce que les infirmières sont très bien capables de... On parle de nos symptômes et les infirmières qui répondent au 811 sont capables de nous dire, au moins de nous donner des conseils qui sont très, très justes et qui peuvent nous empêcher d'avoir envie d'aller à l'urgence parce qu'on est inquiet. Parce que c'est normal d'être inquiet, mais il y a moyen de se faire rassurer, entre autres, par les infirmières qui travaillent au 811. Si ça fonctionne pas, les pharmaciens, on les oublie souvent, mais les pharmaciens sont de très, très bons, ils peuvent être de très bons conseils et ils peuvent nous aider, par exemple, pour le rhume ou la grippe, ils peuvent nous proposer des choses qui sont en vente libre.
Oui, puis ils sont capables de dire aussi, garde, non, allez-vous-en à l'urgence, là, ça marche pas. Moi, il y a un pharmacien qui m'a déjà dit ça. Il avait bien raison. J'avais un petit problème. C'était rien de grave, mais il fallait faire quelque chose, tu sais.
Alors, c'est ça, je pense. Puis ils peuvent prescrire aussi. Donc, si par exemple, je donne un exemple, si pour une infection qui n'est pas très grave, les pharmaciens ont un certain droit de prescrire aussi maintenant, donc ça peut être très aidant. Sinon, bien, notre médecin de famille, c'est sûr que les cliniques sans rendez-vous sont ouvertes. La majorité du temps, je pense que les deux seules journées où les cliniques sont fermées, c'est le 25 décembre et le 1er janvier, puis il y a des cliniques d'ouvertes même à ces dates-là. Mm-hmm. Donc, ça peut être une troisième chose. La quatrième, bien, c'est évidemment... Toutes les cliniques sans rendez-vous, même si ce n'est pas une clinique où est votre médecin de famille, il y en a beaucoup d'ouvertes. Et enfin, de passer aux cliniques d'hiver, on entre dans la deuxième année de cette offre à la population où, de décembre à mars, il y a des cliniques d'hiver qu'on appelle, qui sont ouvertes avec un plus grand nombre d'heures d'ouverture, une augmentation du personnel. Donc, ça peut être très intéressant. C'est que si on passe ces 5 étapes-là, bien, on a des chances de ne pas se retrouver à l'urgence, finalement.
En effet. Tu sais que les cliniques d'hiver, Joanne, on en avait parlé l'année dernière parce que ça commençait, mais oui. Je les avais complètement oubliées parce que ce n'est pas encore passé dans nos mœurs, dans nos habitudes. Parle-nous de ça un peu. C'est quoi une clinique d'hiver? Ça ressemble à quoi? Parce que c'est des bureaux qui ouvrent spécialement ou ça se fait comme, par exemple, toi, dans ta clinique de médecine familiale, dans ton groupe de médecine familiale, tu as ça, une clinique d'hiver. Comment ça fonctionne et c'est où et c'est quoi?
Bien, en réalité, la première chose que je veux te dire, Marie-Claude, c'est de prendre en note le site web où les gens peuvent s'informer des endroits et des heures d'ouverture de cliniques d'hiver. Et c'est le www.c.claude.ca. Donc, c'est un site où on peut avoir toutes les informations pour les cliniques d'hiver. Et effectivement, les cliniques d'hiver, ça se fait à l'intérieur des bureaux qui sont déjà installés, n'importe quel GMF ou GMFU pour universitaire. C'est pas tout le monde qui en offre, mais c'est ouvert à l'intérieur des bureaux déjà en place. Et c'est juste qu'ils ont augmenté le nombre d'heures d'ouverture. Donc, ils ouvrent plus tôt le matin, plus tard le soir. Et il y a surtout, il y a plus de médecins et plus d'infirmières disponibles au même moment.
Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous?
Non, parce que c'est sans rendez-vous. Okay. Mais il y a certaines cliniques qui peuvent aussi fonctionner avec rendez-vous parce qu'on appelle ça du dépannage sur rendez-vous, mais on appelle et puis on s'informe des heures d'ouverture et ça roule vraiment, vraiment bien. Puis à ce moment-là, tous les cas de rhume, grippe, gastro-entérite, infection urinaire ou problèmes qu'on qualifie de moins urgents peut être traité dans ces cliniques-là.
Oui, et si au contraire, la personne qui est malade, fiévreuse et qui tousse ou vraiment est en train de faire une pneumonie, ben clinique d'hiver, ils vont rapidement les diriger vers justement un hôpital ou quelque chose comme ça. Là.
Oui, puis encore là, tu sais, si on prend l'exemple que tu donnes, à une clinique d'hiver ou à une clinique sans rendez-vous, on est aussi capable de bien mesurer est-ce que c'est nécessaire que la personne soit hospitalisée ou on peut la traiter directement.
Oui, commencer les antibiotiques immédiatement, etc.
Exactement.
Bon. Ma chère Joanne, donc, parlons par contre des cas où on doit, selon certains symptômes, aller à l'urgence. Puis c'est vrai qu'on n'attendra pas. Je pense, entre autres, à ma petite maman qui m'en avait fait une chute. C'était cogné la tête. Puis elle m'avait dit non, je ne vais pas à l'urgence parce que je n'ai pas le goût d'attendre 15 heures. Puis j'avais dit non, maman, la tête, ils vont s'occuper de toi vite. Non. Puis de fait, tu as fini par y aller. Puis je pense qu'une demi-heure après, je pense qu'elle est passée au triage tout de suite. Puis elle n'a pas attendu très longtemps parce que c'était une chute sur la tête. Tu sais.
Bien, je pense que c'est un cas qui est assez adéquat. Je te dirais que ce qui est important que la population sache, c'est que si vous avez une douleur thoracique, par exemple, qui perdure, ben c'est important de consulter parce que ça pourrait être un infarctus.
Oui.
Mais ça peut être vu aussi à une clinique avant quand même. Tout ce qui est de problème, de la température qu'on ne contrôle pas après 72 heures, c'est important de consulter, mais on peut encore passer par les cliniques avant l'urgence.
Oui, oui,
mais
oui.
Si on est vraiment très inquiet, bien évidemment, on
s'en va à l'urgence.
Une fois qu'on a fait les 5 étapes, oui. On s'en va à l'urgence.
On se laisse là-dessus, chère Joanne. Merci, on se retrouve demain. Et chers
Absolument.
Auditeurs, ben, on s'arrête pour les nouvelles et on se retrouve tout de suite après. Restez des nôtres.